Donc on reprend le cours de l'histoire de l'astronomie qu'on avait commencé avec les Grecs. Je me rappelle plus si c'était 2005 ou 2004. Et on arrive péniblement à la fin. Donc comme on a été interrompu, c'est-à-dire c'est moi qui a coupé, je laissais traîner, on va rapidement reprendre le fil de l'histoire. Les hommes observaient le ciel depuis l'Antiquité, évidemment.
Ah, c'est beaucoup mieux.
Bon, il n'y a pas grand-chose à voir, de toute façon. Donc, observation du ciel par les Babyloniens, par les Égyptiens, par les Chinois. Et qu'est-ce qu'on voit quand on regarde le ciel? Bon, on voit plein d'étoiles, surtout quand il n'y a pas d'illumination et pas de télé, etc. Et puis, on voit la Lune, évidemment, qui tourne autour de la Terre et puis qui fait des phases. Les étoiles sont toujours les mêmes et elles ne bougent pas l'une par rapport à l'autre. Donc, finalement, les gens ont imaginé que ces étoiles étaient fixées sur une espèce de sphère, d'énorme sphère, qui tournait autour d'un axe qui coïncide avec le pôle nord et le pôle sud. Mais au milieu de ces étoiles, il y avait des choses un peu plus bizarres, c'est-à-dire on pouvait trouver une ligne imaginaire qui correspond à l'intersection du plan de l'écliptique, c'est-à-dire le plan identifié par l'orbite terrestre. Pour nous, c'est le même plan sur lequel nous voyons tourner le Soleil. Et cette ligne qui traverse le ciel comme ça, elle a quelque chose de spécial dans le sens que non seulement le Soleil suit toujours cette ligne par rapport aux étoiles, hein, ne mélangeons pas, le Soleil pour nous il est plus haut ou plus bas, mais si on va regarder par rapport aux étoiles, il décrit toujours le même trajet. Et la Lune suit également le même chemin, et puis il y avait cinq astres qu'on appelait planètes, c'est-à-dire vagabonds, qui eux aussi, tout doucement, se déplaçaient, mais toujours en restant dans une bande de plus ou moins 9 degrés par rapport à cette ligne imaginaire. Et donc, les anciens ont appelé cette bande dans les ciels, ils l'ont appelé les zodiaques. Zodiaque, ça a la même racine que zo, c'est-à-dire, c'est le cercle des petits animaux, au fait, les zodiaques. Et ils ont identifié 12 constellations dans le zodiaque, qui sont celles que vous retrouvez dans votre horoscope chaque semaine, et qui permettaient de déterminer les mois de l'année par rapport à la position du Soleil dans une constellation ou dans une autre. Ceci est une astronomie d'observation, c'est-à-dire on regarde ce qui se passe, on note quand il y a une éclipse de Soleil ou de Lune, et on accumule des données. Avec le 6e siècle avant Jésus-Christ, les premiers philosophes naturalistes grecs ont repris évidemment, ont acquis les connaissances de leurs collègues égyptiennes ou babyloniennes, mais en plus, ils ont commencé à faire un peu d'astronomie théorique. C'est-à-dire, se demander non seulement ce qu'on voit, mais pourquoi les choses sont comme ça. Et dans cette astronomie théorique, voir cosmologie, c'est-à-dire expliquer comment est fait l'univers, il y a deux phases différentes. Dans une première phase, on essaye de décrire les orbites, sans toujours encore se demander comment est faite vraiment une planète ou une étoile. Déjà de trouver des orbites, donc les parcours de ces astres, c'est déjà un pas en avant. C'est ce qui a fait, par exemple, Copernic. Copernic, lui, il a essayé de déterminer une loi des orbites pour les astres fixes ou errants, mais il ne s'est pas posé des questions sur la constitution des astres, sur pourquoi les choses vont comme ça, etc. Donc, c'est ce qui a fait également Aristote, quand il a demandé à ses mathématiciens de construire un système de sphères très compliqué, donc des sphères emboîtées l'une dans l'autre, tel que en fixant Mars ou Vénus, etc., sur une de ces sphères et en les faisant opportunément tourner, on arrivait à reconstituer l'orbite. Cette phase de philosophie naturelle, les philosophes naturels, en réalité, c'était des scientifiques. Ce n'étaient pas des philosophes. Et quand ils ont progressé jusqu'à un point où leurs explications, leurs hypothèses touchaient à la nature du monde, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés à la cosmologie, là, ils se sont heurtés à un problème qu'on retrouvera tout le long de l'histoire, c'est-à-dire quand vous allez trop loin dans l'explication du monde, vous vous cognez à la création du monde, pour vous heurter à la création, et donc à la religion. Donc, le dernier philosophe naturel grec, qui est Anaxagoras, Anaxagore, il a été chassé d'Athènes, il a été exilé, autrement il a laissé sa peau, et on a fait une loi qui interdisait aux astronomes de s'occuper du ciel, de la nature du ciel. On avait inventé un bon système avec les dieux et tout. Les astronomes, à partir de cette époque-là, on demandait aux astronomes de s'occuper de savoir où étaient les étoiles et rien d'autre. Et ça a duré jusqu'à Copernic, en tout cas, un peu plus loin, disons. Les gens qui faisaient cette construction d'orbite, après, ils construisaient des tables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à la personne qui doit faire le calendrier pour le mois prochain ou aux astrologues, qui étaient nombreux, on ne peut pas leur demander de déterminer la position d'une étoile en utilisant des orbites bizarres. Donc, on faisait des tables sur lesquelles on pouvait rapidement consulter la position de telle et telle étoile pour faire l'horoscope ou le thème de naissance de quelqu'un, par exemple. Je fais un petit pas en arrière. Quand les philosophes, les vrais philosophes, c'est-à-dire Platon, Socrate, Platon et Aristote, ont interdit aux astronomes de s'occuper du ciel, si on peut dire, c'est là où il y a eu la scission entre la philosophie et la science, c'est-à-dire les mathématiques, les physiques et l'astronomie. C'est-à-dire que la science a continué quand même à faire ses progrès, et les gens en ont eu marre de théories bizarres ou des contraintes philosophiques, et se sont mis à travailler à leur compte. C'est la période hellénistique, donc de 300 avant Jésus-Christ jusqu'à 0, disons, où en mathématiques et en astronomie, on a fait des progrès énormes. Je rappelle qu'on a mesuré les dimensions de la Terre, les dimensions de la Lune, la distance entre la Terre et la Lune avec une grande précision. On a créé les cartes géographiques avec la longitude, latitude et tout. Et on a compris la gravité. On a compris les mécanismes des marées, c'est-à-dire la dépendance entre la marée haute et la marée basse par rapport à la position de la Lune et du Soleil, au point que j'aurais mentionné qu'Hipparque, au IIe siècle avant Jésus-Christ, avait déduit qu'il existait un continent l'Atlantique et le Pacifique, du fait que les deux marées étaient différentes. Tout ce beau progrès a été stoppé net par l'arrivée des Romains. Les Romains, au 3e et 2e siècle avant Jésus-Christ, étaient une puissance militaire, mais très ignorant pour le reste. Donc, les études, les bibliothèques, les études et les progrès en mathématiques et en astronomie ont été stoppés net. J'avais mentionné pour preuve que personne ne saurait citer un mathématicien ou un astronome ou même un médecin un romain. Donc, ils étaient certainement très forts dans les techniques militaires, dans les droits administratifs, tout ce que vous voulez, dans l'organisation, le point de vue scientifique, rien. Cela fait que les mondes successifs, donc je ne veux pas dire occidental, mais disons les époques successives, qu'est-ce qu'elles ont hérité des connaissances grecques? Non pas les vraies bonnes connaissances d'Euclide, d'Archimède, d'Hipparque, etc. Ils ont hérité les livres de deux scientifiques tardifs. J'ai donc nommé Claude Ptolémée en astronomie et en géographie au IIe siècle après Jésus-Christ et Galien en médecine. Tout le reste était perdu à toujours. Sauf dans les textes des auteurs classiques latins. Par une heureuse coïncidence, tous les grands auteurs latins, Sénèque, Pline, Cicéron, j'en rajoute, ils sont tous de l'époque autour du 1er siècle après Jésus-Christ. Donc, ces gens-là avaient, en tout cas, oui dire, avaient connaissance de ce qui avait été trouvé en mathématiques, en astronomie, etc., par les grands scientifiques grecs. Ils n'étaient pas encore, ils étaient précédents à Ptolémée et Galien. Donc, si on va lire ce que disent ces gens, ils racontent un tas de merveilles au sujet de connaissances anciennes. Et c'est, par exemple, quelque chose qu'on retrouve en Newton. Newton était convaincu que l'homme a une connaissance primordiale. C'est-à-dire que jadis, on savait tout, et que cette connaissance a été transmise par les écritures, par les prêtres, mais elle s'est perdue graduellement. Parce que plus on allait en arrière, et plus les gens savaient des choses. Vous voyez? Donc, on revient à l'astronomie, Ptolémée, il avait laissé un héritage, si vous voulez, au monde, un système qui était une filiation du système des sphères concentriques, qui était en réalité un système de cercles qui portait des autres cercles plus petits pour faire décrire aux astres les orbites un peu bizarres qui étaient nécessaires. C'est les systèmes qui s'appellent des cycles et épicycles, c'est-à-dire pour voir la position des astres, il faut tracer un cercle qui s'appelle un cycle, et sur ce cercle, il faut tracer un autre cercle qui s'appelle un épicycle, et puis éventuellement encore un troisième. Comme c'était antipathique pour lui de tracer beaucoup de cercles, il a trouvé un peu de combine, c'est-à-dire que par exemple, sur les petits cercles, sur l'épicycle, un astre se déplaçait non pas avec une vitesse uniforme, mais avec une vitesse qui était variable. Il avait déterminé un point, il avait dit la vitesse va être uniforme par rapport à ce point qui n'est pas le centre de l'épicycle. Et ce système de cycle et épicycle a traversé 1400 ans, c'est-à-dire du 2e siècle après Jésus-Christ jusqu'à Copernic. Il a bien desservi les Arabes, les astronomes arabes, ils ne sont jamais allés plus loin, et tout le Moyen-Âge. Évidemment, c'est comme quand on hérite une montre ou une horloge. Non seulement on avait perdu la mémoire de comment était construit ce système de cycles et de cycles, il y avait la description, mais il n'y avait pas les raisonnements, si vous voulez, pour les reconstruire en cas de nécessité. Et donc, au fur et à mesure que le temps passait, ce système se déréglait. ce qu'ont fait les Arabes, par exemple, tout le long, et même les Occidentaux, disons, jusqu'au 2e, 3e siècle, ils réajustaient un peu les systèmes, changeaient un peu les paramètres, et refaisaient des tables astronomiques. C'est ce qu'a fait Alphonse X de Castille en 1300, par exemple, la table alphonsine. On les retrouve jusqu'au temps de Copernic, donc ils ont servi quand même 200-300 ans. Et Alphonse X avait dit, si Dieu m'avait laissé faire le monde, j'aurais quand même pu faire plus simple. On arrive donc à Copernic qui, ayant passé, on en a parlé la fois précédente, des trucs de Copernic, on ne va pas recommencer aujourd'hui, mais ayant passé 7 ans en Italie, entre Bologne, Padoue et Ferrara, il avait beaucoup entendu parler de héliocentrisme, c'est-à-dire de cette idée où ce n'est pas la Terre qui tourne autour du Soleil, où ce n'est pas la sphère des étoiles qui tourne autour de la Terre, c'est en réalité la Terre qui tourne sur elle-même et autour du Soleil. Copernic voulait refaire les tables de Ptolémée, mais il ne savait pas comment. Alors, il a trouvé plus simple, tout compte fait, de dire, alors, je vais essayer avec ce système où le soleil est au centre. Seulement, Copernic était une personne géniale, mais n'était pas un super génie, si vous voulez. Il a trimé pendant 30 ans, et il n'arrivait toujours pas à avoir des résultats vraiment satisfaisants. C'est pour ça qu'il ne voulait pas publier. C'est pas parce qu'il avait peur de ce que dirait l'Église. On sait qu'on l'a forcé donc sur le point de la mort. Il y a un jeune astronome qui est arrivé, qui l'a obligé à publier ses résultats, mais ses résultats étaient très loin d'être meilleurs de ceux de Ptolémée. Non seulement il avait moins de précision dans la prévision de la position des astres, mais il avait 48 cercles au lieu de 40. Il avait gardé l'idée que les planètes et les étoiles et tout sont fixées sur des sphères matérielles qui tournent. Donc, ça c'est important parce que ça, on les retrouvera au moment du procès de Galilée. Parce que Galilée n'avait rien compris à Copernic non plus. C'est-à-dire qu'il n'avait pas lu. Donc, Copernic s'en va. Après lui, il a quand même la chance qu'un astronome très valable, qui s'appelait Erasmus Reinhold, a repris toutes ces données aussi mauvaises que cela, et il a retravaillé jusqu'à prendre des tables astronomiques correctes, en corrigeant toutes les erreurs, etc. Ces tables se sont appelées tables pruteniques, mais comme prutenique, c'est un nom qui rappelle l'allemand, donc c'est pas un nom, ces tables ont pris le nom de calculus copernicus, donc, c'est-à-dire le calcul de Copernic. Et c'est pour ça que le nom de Copernic est resté connu, parce que par rapport au livre qu'il a écrit, personne ne l'a lu. Il était invisible d'ailleurs, hein, même, donc. Et c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune révolution copernicienne, comme on dit. Il a publié ce livre, l'Église n'a pas bronché. D'abord, l'Église était dans un état beaucoup plus calme que par la suite. Et ensuite, personne. En 100 ans, il y a peut-être 10 ou 12 personnes qui ont lu ce livre. Donc, on aurait tranquillement oublié. À ce moment-là, deux autres astronomes, un qui malheureusement est mort très jeune, qui s'appelait Regiomontanus, Johannes quelque chose, et Tycho Brahe, ils se sont dit, on va changer de méthode, c'est pas la peine de continuer à inventer des orbites qui marchent pas, parce qu'en plus Copernic n'a pas fait d'observation astronomique directement, donc il a repris des données qui étaient déjà pourries au départ, donc il ne pouvait pas mieux faire. Deux astronomes seulement se sont dit, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire on va faire des observations, des relèvements précis. Et à partir de là, on verra. Tycho Brahe a travaillé presque 40 ans rien qu'en mesurant tout le temps des étoiles. Ce qu'il a fait aussi, c'est qu'il a repris une bonne chose que les Arabes nous avaient montré, c'est-à-dire comment on construit un observatoire astronomique. Et Tycho Brahe, toute sa vie, non seulement il a fait des observations, mais il a construit un instrument astronomique absolument imbattable. En tout cas, avant les jumelles. Et donc, nous nous retrouvons maintenant avec le jeune Kepler qui arrive dans le laboratoire de Tycho Brahe juste avant que Tycho Brahe meure. Et c'est là où nous reprenons notre histoire, si vous voulez. Mais, pour faire les choses correctement, il faut quand même raconter un peu qui était Kepler. Parce que, si vous voulez, mon but, ou alors ce qui m'amuse, ce n'est pas de vous réexpliquer les lois de Kepler, parce que tout le monde les connaît, elles sont dans toutes les encyclopédies, mais c'est un peu de vous raconter la vie et les vicissitudes de ces gens. Alors, Kepler, il est né en forêt noire, il est né dans un petit village, Val d'Estaing, et il est né mâle, c'est-à-dire il est né dans une famille d'handicapés pratiquement. Cette famille avait eu un peu d'argent avant l'heure, le grand-père avait ouvert un bistrot dans le village, et dans cette espèce de bistrot taudis, c'est pressé, les frères, les sœurs. Donc, vraiment, les familles qu'on considère dans un village, si vous voulez, les irrécupérables. Kepler, quand il parlera, il parle toujours de soi-même en troisième personne. Et quand il parle, quand il se décrit, il dit un chien galeux. Je suis un chien galeux. Effectivement, il était maladif, il y voyait mal, et il avait tout le temps le problème de épidermique, si vous voulez, l'épiderme. Donc, dans tout ce malheur, parlons pas de sa mère, on la retrouvera tout à l'heure, parce qu'elle était une vraie sorcière, jusqu'au point qu'elle a été incriminée pour sorcellerie. Le petit Kepler était quand même doué, et il a eu la chance que, entre-temps, il y avait eu la réforme, c'est-à-dire que l'Église, dans les centres nord d'Europe, s'était séparé de l'Église catholique, et comme les catholiques, l'Église détenait aussi tous les gens cultivés, tous ceux qui savaient faire des comptes, tous ceux qui savaient administrer, etc. Donc la première chose que les gouvernements locaux ont fait, c'est de mettre sur pied des écoles les meilleures possibles. Pour dire, on va former nos cadres. On peut pas voir partir les jésuites, les prêtres, se retrouver sans connaissance aucune. Donc, Kepler, comme il était brillant, il a été embarqué dans un système d'enseignement qui était un système de rêve. Il a été porté à travers les séminaires jusqu'au bout de l'université. Et, quand il a été au terme de l'université, normalement il aurait dû devenir prêtre. Mais, toujours le hasard, l'université de Graz était restée sans un professeur de mathématiques. Donc ils écrivent à l'université de Tübingen, où lui il avait fait ses études, ils disent, vous n'avez pas quelqu'un à nous envoyer par hasard. Et l'université de Tübingen, il propose Kepler. Kepler, il hésite un moment parce qu'il devait devenir prêtre, hein, puis il dit, tout compte fait, il y va. Il y va, il est tellement bon enseignant de mathématiques qu'au bout d'un an, il n'a plus aucun élève. Parce qu'il était tellement excité, tellement génial, que quand il partait, il commençait à faire une leçon, et puis il partait de tous les côtés, il s'excitait, etc. Les étudiants étaient, c'était une espèce de lycée, hein, les étudiants étaient des fils de nobles, de bonnes familles, ils n'avaient pas tellement envie de se casser. Et donc, l'année d'après, il n'y a plus personne. Alors, il se dit, qu'est-ce que je fais? il a eu l'idée d'ajouter à son cours de mathématiques un cours d'astrologie, parce que l'astrologie à l'époque, dans toutes les époques, mais à l'époque, si vous voulez, il faisait fin, c'était bien de pouvoir parler d'astrologie, etc. Et les étudiants sont revenus. Il ne s'est pas calmé pour autant, parce qu'un jour où il était en train, alors, pour faire de l'astrologie, il faut tracer des dessins, et des dessins dans les étoiles, etc. Et tout à coup, en traçant ce dessin, Alors, en passant ce dessin, il a une idée. Il s'est dit, les anciens savaient qu'il y a 5 solides parfaits. Un solide parfait, rappelons-le, c'est un solide qui a toutes les faces et tous les côtés égaux. Et déjà Platon savait qu'il y avait 5 solides parfaits et pas plus, au point que, très impressionné, il avait imaginé que les atomes des 5, des 4 substances élémentaires, donc la terre, l'air, le feu et l'eau, plus un 5e élément, l'éther, avaient la forme, donc les atomes de ces matières avaient la forme de solides parfaits qui s'accrochaient l'un à l'autre avec des crochets, etc. Donc Kepler, il a l'idée que pour expliquer la distance entre les 6 planètes, 6 planètes, parce que maintenant, aux 5 planètes connues dans l'Antiquité, il faut ajouter la Terre. Hein, on est déjà un système héliocentrique. Donc il s'est dit, va voir que la distance entre les planètes est déterminée par les solides platoniques. Si dit, si fait, il inscrit, il choisit donc un solide comme il faut entre la Terre, Mars, etc., etc., et les choses collent à peu près, parce que à 5% près, c'était correct. J'ai oublié de préciser que les distances entre les planètes avaient été déjà déterminées par Copernic quand même. C'est-à-dire que quand Copernic avait dû recalculer les orbites en mettant le Soleil au centre, il en résultait des distances croissantes des planètes. Ils étaient plus tous l'un collé à l'autre, l'une collée à l'autre. Donc, Kepler s'excite beaucoup, il écrit un bouquin qu'il appelle « Le mystère du cosmos » et il envoie ce bouquin à tous ses amis, y compris à Galilée. Malheur. Galilée était quelqu'un qui avait horreur de tout ce qui est obscur et surnaturel. Donc, Galilée était quand même un peu plus ancien, il avait 10 ou 15 ans de plus que Kepler. Et qu'est-ce qu'il fait, Galilée? Ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est-à-dire, il écrit, le même jour, il lui fait une réponse très courtoise, en disant « Merci de votre envoi, ça me fait très plaisir, etc. Je les lirai certainement avec intérêt. » Et il l'a mis dans le tiroir. Donc, mais il n'a pas oublié Kepler, parce que de temps à autre, il en entendait parler, et pour lui, Kepler, c'était quelqu'un d'absolument pas fiable. Il faut comprendre, parce qu'on verra que les rapports entre Galilée et Kepler ont été tout sauf bons. Bon, ici, si vous avez le temps de lire pendant que je parle, il y a des petites anecdotes, c'est-à-dire que quand on s'embarque dans ce genre de théorie, où on essaye d'expliquer les choses sans trop de vérifications, etc., on atterrit à des choses, parfois c'est amusant, ou un peu absurde. Ça arrive dans les meilleures familles. Entre-temps, Kepler était en train de mourir de faim, parce que à Grasse, où il avait son poste comme enseignant, il avait des problèmes de lutte entre religions. Alors, Kepler était protestant, mais il avait ses réserves aussi sur certains points de la foi protestante. Donc, il était mal vu par les protestants et par les catholiques. Et quant à Grasse, finalement, ils ont fermé les écoles protestantes, ils ont mis dehors tous les enseignants. Kepler était mal en point. Je vérifie si c'était déjà remarié. Non, c'était pas encore remarié. Il y avait une femme à cariâtre, en plus, avec des enfants, donc il savait plus où donner de la tête. Et, à ce moment-là, il prend contact avec Tycho Brahe, qui était à Prague, et il lui demande s'il peut aller chez lui. Et Tycho lui dit, oui, on vient, on vient, on vient. Parce que Tycho Brahe, il était au bout de son chemin, il avait accumulé une quantité inimaginable de données, mais il savait pas, il savait plus comment faire pour en tirer des orbites. Vous voyez, vous avez tout un tas de points mesurés dans le ciel, mais il fallait en tirer des résultats. Et il savait pas. Tycho va chez Kepler, va chez Brahe, il trouve l'assistant de Brahe, Longomontanus, qui était en train d'essayer de calculer l'orbite de Mars, et il arrivait à rien faire. Alors Kepler, il dit à Brahe, il dit, si tu me passes le résultat et tu me laisses travailler sur l'orbite de Mars, je vais te le faire en 8 jours. Bon, il lui a donné les données, et ça lui a pris 8 ans. Et, de plus, Tycho Brahe meurt soudainement, en 1601. Alors Kepler, il se retrouve avec toutes les données de Brahe, une famille un peu infecte d'héritiers de Brahe, etc., qui ont pratiquement saisi tous les instruments, tout, parce qu'ils voulaient pratiquement, ils les ont vendus à l'État, qui les a mis dans une pièce, dans une cave, où ils ont pourri. Et Kepler, donc il a eu le bon réflexe, il a tout volé. Il a pris toutes les données et il les a gardées. Il a eu des problèmes légaux jusqu'à la publication de ses œuvres, mais en attendant, il ne les a pas lâchées. Et il commence à calculer des orbites. Les calculs n'étaient pas simples du tout, parce que les gens ont raisonné encore à l'époque en orbite circulaire. Copernic, en réalité, n'avait même pas placé les centres de ses sphères dans la position du Soleil. Il avait placé les centres de son système dans le centre de l'orbite de la Terre, donc tout était faussé. Donc, le chemin de Kepler a été très long. Il a dû d'abord déterminer, et c'est un des plus grands résultats, que les plans de trajectoire des planètes passent par le Soleil. Tout le monde se rappelle que la première loi dit que les planètes décrivent des orbites elliptiques où le Soleil occupe un de foyers. Mais en réalité, il faut voir que c'est la première fois où on reconnaît que l'orbite d'une planète appartient à un plan qui passe par le Soleil. Et ce n'est pas simple à trouver du tout en ayant juste des relèvements d'étoiles à droite à gauche, fait qu'il y ait plus depuis une plateforme comme la Terre, si vous voulez, qui tourne tout le temps, qui se déplace, qui godille par effet de la Lune, etc. Donc c'était un travail très très dur. Et finalement, il publie ces deux premières lois. Là. Oui. Il publie en 1609 Astronomia Nova, c'est-à-dire la nouvelle astronomie, où il y a les deux premières lois. Après quoi, il se remet au travail, il se remarie. Alors, le deuxième mariage, c'est une belle histoire, parce que ses amis lui proposent 11 candidates. Et lui, pendant 6 mois, il va les examiner toutes, discuter, puis il revient vers lui, et il remplit ses amis de lettres avec, parce qu'il écrivait tout, il écrivait tout le temps. Il remplit ses amis de lettres avec les mérites et les désavantages d'une ou de l'autre. Et pour finir, il a marié à celle qui lui avait plu tout de suite, donc il aurait pu quand même faire plus court. Il a eu 7 enfants, dont 3 sont morts, et donc, Et donc, pendant tout ce temps, il n'avait jamais des frites, parce qu'à la mort de Tycho Brahe, il avait été nommé à sa place. Il avait été nommé astronome royal. Impérial, pardon. Tant qu'à faire. Mais il n'a jamais vu un rond. On ne le payait pas. Donc, quand il est mort, il avait un crédit de 18 000 florins. Mais en attendant, à chaque fois où il se déplaçait pour aller réclamer son argent ou aller chercher un imprimeur, il plantait sa femme avec ses enfants à mi-chemin sans un sou, et lui continuait, puis quand il arrivait, il vendait son âme. Donc c'était vraiment... Alors, quand j'ai regardé la première fois l'histoire de Kepler, j'ai remarqué qu'il s'est passé 10 ans entre la publication des 2 premières lois, donc l'astronomie en ordre, et la deuxième œuvre, qui s'appelle « Les harmonies du monde », qui détermine, si vous voulez, un rapport entre la période, c'est-à-dire le nombre d'années, ou de mois ou d'années qu'une planète emploie pour décrire son orbite, et la distance par rapport au Soleil. Alors, pendant, effectivement, j'ai posé la question à quelques collègues qui n'ont pas répondu comme il faut. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 ans? D'abord, il a passé 5 ans à défendre sa mère accusée de sorcellerie. Donc, j'ai déjà dit que sa mère était une sorcière dans le comportement. Elle s'est prise de bec avec la femme du vitrier du village. Le fils du vitrier du village travaillait pour le seigneur de la comté. Donc, ils ont accusé sa mère de sorcellerie. Et Kepler avait, d'un côté, en tant qu'astronome impérial, il ne pouvait pas permettre que sa mère soit condamnée comme sorcière. Et d'un autre côté, il avait mauvaise conscience, parce que quand il était étudiant, il avait fait une petite thèse où il était transporté sur la Lune, sur le balai d'une sorcière qui était sa mère. Donc, vous voyez, où vont ces chasser les choses. Ah. Donc, il passe 5 ans à faire absoudre sa mère. On avait quand même brûlé 30 sorcières en 10 ans. Dans les 10 ans dont on parle, dans les villages, on a brûlé 30 femmes. Donc, ce n'était pas une blague. Ensuite, quand finalement sa mère... Alors, le tribunal lui dit, oui, tu peux ramener ta mère, mais s'il te plaît, tu l'enlèves du village. Alors, lui, il l'amène avec lui, mais elle ne se plaisait pas, donc elle a voulu retourner. Bref, finalement, on l'a absoute, mais elle a dû quand même quitter le village, parce que sinon les habitants la lynchaient. Et puis elle est morte le mois après. En ce temps, il y a eu la guerre de 30 ans, donc l'imprimerie qui était en train d'imprimer l'œuvre finale de Kepler a été brûlée. En somme, au bout de 10 ans, il a publié finalement son œuvre, Les Harmonies du Monde, et qui s'appelle Harmonie du Monde parce qu'on fait les rapports qu'il y a entre les orbites et les périodes, entre les dimensions de l'orbite et les périodes de planète, sont des rapports simples. Ce sont des rapports simples comme les accords musicaux. Et en effet, moi je ne connais pas la musique, mais on peut dire que si les planètes pouvaient jouer, ils nous feraient une jolie petite chorale. C'est une idée, je rappelle, qui remonte déjà à Pythagore. Sauf que Pythagore l'a attaqué du point de vue numérique et Kepler, au départ, il l'a attaqué du point de vue géométrique. Ces lois, les 3 lois de Kepler, sont aussi, pour la première fois, des lois mathématiques, c'est-à-dire on a des relations mathématiques simples et vérifiables. Tout le monde peut rentrer les nombres dans ces formules et voir que ça marche. Et c'est ça qui permettra à Newton aussi de déduire ces lois. C'est-à-dire en partant des lois de Kepler, il a dû trouver quel mécanisme pouvait déterminer ce genre de comportement. On abandonne Kepler et on passe à Galilée. Alors Galilée, Il est italien, florentin, comme tout le monde sait. Et on va un peu les critiquer aujourd'hui. Je ne pourrais pas les faire en Italie, et je pourrais encore moins les faire à Padoue, où sur 3 événements, 2 sont une célébration annuelle, 2 sont une célébration de Galilée. Donc, je prends l'occasion pour les démythifier un peu. Galilée, elle est sujet d'un faux historique qui continue depuis 2 siècles et demi. La dernière occasion, je crois il y a 2 mois, il y a encore eu un documentaire sur le procès de Galilée, que tout le monde a vu à la télé. Bon, il n'y a pas un mot de ce documentaire qui ne soit pas vrai. Ils ont repris les choses telles, c'est d'une telle fidélité que c'est impressionnant. Où est le faux? C'est comme si on prenait le procès de quelqu'un qui a rempli de gifles, si vous voulez, la face de quelqu'un d'autre. Évidemment, quand il est là, accusé, humilié, effrayé par tout ce monde, vous voyez, qui est autour et qui l'accuse, on se dit, oh, le pauvre type. Mais si on savait qu'avant d'en arriver là, le type a insulté ou a fait des misères à la personne, si vous voulez, qui agitait, vous voyez, à ce moment-là, on se dirait, finalement, il a mérité, vous voyez. Alors, nous allons voir pourquoi Galilée, effectivement, s'il y avait eu 100 choses à faire fausses pour en arriver à ce procès, Galilée en aurait fait 101. Donc ça, c'est toutes les choses pour lesquelles Galilée est très connu et qui n'a pas fait. Entre autres, il a pas dit, pourtant elle bouge, parce que les témoins de l'époque écrivent qu'il était plus mort que vif quand il a été amené dans la salle du tribunal. Et si on lit le texte de l'abjuration qu'il a dû lire, c'est terrifiant. Donc, quelqu'un qui lit à genoux ces 3 pages de texte, je vous assure qu'à la fin, il n'a pas envie de dire autre chose. Alors, ça c'est une petite digression. C'est les gens qui ont été, parce qu'en 1540 et quelques, à Rome, on a monté l'Inquisition. Avant, elle était peut-être en Espagne, mais pas à Rome. Et donc, l'Inquisition a été prise en main par les Dominicains, et les papes successifs, comme Galilée a vécu longtemps, si vous voulez, il a vu passer au moins trois papes. Et ça, c'est la liste des victimes des papes, tous exécutés à Rome. D'accord? 1, 2 et 3. D'accord? Donc, c'était pas de la blague, l'Inquisition. Et Urbain VIII, donc c'est le grand ami de Galilée, hein, donc c'est le pape le meilleur, déjà.